Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous J'ai avez dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
19h sur BFM Business, la deuxième heure de Good Evening Business en direct. Qu'est-ce qu'on raconte ce soir dans l'actualité économique ? On raconte que l'Allemagne est entrée officiellement en récession aujourd'hui. Les chiffres sont tombés ce matin. Récession qui est un petit peu à contre-courant du reste de ce qu'on voit en Europe. On va raconter ça dans un instant. Sinon, alors, il ne s'exprime que deux fois par an. C'est rare. C'est le patron de l'autorité de sûreté nucléaire qui a lancé un avertissement ce matin à EDF. Vous savez, qui conçoit les futurs réacteurs EPR du futur en France. Il a dit que le changement climatique va avoir des incidences terribles. Il va falloir que les réacteurs nucléaires prennent tout ça en compte. Ce n'est pas le cas pour l'instant. On racontera ça dans quelques minutes avec Mathieu Pechberti. Un mot de nos invités ce soir, dans un quart d'heure, c'est le fondateur du salon Change Now qui sera avec nous. C'est un rendez-vous qui va se tenir pendant 3 jours du côté du grand salon éphémère pour brainstormer sur un futur qui ne fait pas peur. Le teasing est intéressant. Et puis 19h30, c'est Maurice Lévy qui sera l'invité d'Élise Chevrillon dans la grande interview sur BFM Business. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h.
Good Evening Business, le journal.
Donc, les chiffres l'ont confirmé ce matin, ça n'est pas vraiment une surprise. L'Allemagne, ça y est entrée en récession. Ce qui surprend le plus dans l'histoire, c'est qu'elle entre en récession un petit peu à rebrousse-poil du reste des grandes puissances européennes. Thomas Schnell nous raconte ça.
C'est la douche froide dans la première économie de l'Europe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le PIB a reculé de 0,3% sur la période, après un recul déjà au quatrième trimestre 2022 de 0,5% au lieu de la stabilité anticipée à cause de l'inflation à 7% et de la crise énergétique. Hors Covid, de tels chiffres n'avaient pas été enregistrés depuis 2008. Une contraction qui a surpris les analystes. À la fin du mois d'avril, l'Office fédéral de la statistique allemande s'attendait encore à une stagnation au premier trimestre. Mais la chute de 1,2% de la consommation des ménages, la baisse de 3,3% de la production industrielle et celle de 4,9% des dépenses publiques ont eu raison de cet optimisme. En plus, le secteur automobile a été victime de la réduction des primes d'achat de voitures électriques. Le gouvernement d'Olaf Scholz continue de croire à l'inversion de la courbe en tablant toujours sur une croissance de 0,4% sur l'ensemble de l'année.
Voilà, l'Allemagne officiellement en récession. Thomas Schnell avec nous sur BFM Business. C'est la grande bataille du moment qu'on suit évidemment sur notre antenne. Qui va succéder à Geoffroy Roux-de-Bézieux à la tête du MEDEF en juillet prochain ? Dominique Carla, qui est l'une des deux finalistes, était avec nous tout à l'heure sur BFM Business pour parler des grandes lignes de son programme. Elle le dit notamment, il faut baisser la pression fiscale sur les hauts salaires. Écoutez.
Il faut absolument que pour avoir une industrie forte, on ait une ingénierie forte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que notre industrie soit pilotée, conçue, organisé par de l'ingénierie qui est à l'étranger.
Oui.
Et l'ingénierie qui est à l'étranger, ça peut être par exemple les équipes d'ingénieurs indiens qui sont tout aussi bien formées, oui, que les nôtres. Et puis on peut lentement mais sûrement offshoriser, en mauvais français, ces fonctions de conception et d'ingénierie. Si on fait ça, on n'aura plus d'industrie. Et donc globalement, si on ne travaille pas là-dessus, c'est notre, oui, prochaine vague de colère sociale dans la rue et qui s'exprimera, oui, je pense, très très vite en 2027.
Voilà Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF, candidate à la présidence du mouvement patronal qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business. En France toujours, ça va bien pour les cadres. Puisque c'est le dernier baromètre de l'APEC qui nous le dit, l'an dernier, vous avez 62% des entreprises qui ont dû relever les salaires pour garder leurs meilleurs talents face aux pénuries du moment. 62%, c'est 7 points de plus que l'année d'avant, nous a dit ce matin l'association donc pour l'emploi des cadres. 19h04, je vous disais, il s'exprime deux fois par an, c'est très rare. C'était ce matin, à l'Assemblée nationale, le patron de l'autorité de sûreté nucléaire. Il a lancé un avertissement à EDF qui doit concevoir, vous savez, les EPR du futur. Il le dit très clairement, avec le changement climatique, les futurs EPR risquent d'être malheureusement assez vite dépassés par les événements. Écoutez Bernard de Rozuc.
Les nouveaux réacteurs EPR2 sont des réacteurs qui seront, s'ils sont mis en place, bien sûr, vraisemblablement en fonctionnement à la fin de ce siècle. Les conditions climatiques auront changé à la fin de ce siècle. Et donc, dans la conception des EPR2, il faut envisager quelles sont les évolutions qui seraient possibles ou qui seraient nécessaires sur les installations pendant toute cette période de temps.
Zuc avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité également, côté entreprise, les chiffres de Chanel. Ventes annuelles qui sont tombées tout à l'heure. 17,2 milliards d'euros. On en parlera dans un instant. Pardon, d'abord, ces chiffres que nous ont donnés les experts de l'Agence internationale de l'énergie qui nous disent quoi ? Que en 2023, c'est une première dans le monde. On va dépenser plus d'argent dans le solaire que dans le pétrole. Ça n'est jamais arrivé. Raphaël Couder.
Le solaire est la star des investissements énergétiques mondiaux selon l'Agence internationale de l'énergie. Désormais, plus d'un milliard de dollars est dépensé chaque jour pour construire ou déployer des panneaux solaires, ce qui fait qu'en tout, sur l'ensemble de cette année, les investissements devraient dépasser les 380 milliards, un montant record, et c'est une première, un montant qui est même supérieur aux investissements dans le pétrole. Plus largement, les investissements dans l'ensemble des énergies renouvelables vont cette année encore surpasser largement les dépenses dans les énergies fossiles, une tendance qui est portée par la reprise de la croissance après le Covid. Et surtout, depuis un an, la guerre en Ukraine a suscité beaucoup d'inquiétudes sur la volatilité des prix de l'énergie, ce qui a accéléré les investissements dans de nombreux pays. Aux États-Unis, l'Inflation Reduction Act a par exemple joué un rôle considérable. En revanche, l'AIE pointe du doigt les géants pétroliers et gaziers malgré des engagements ambitieux. Sur le papier, leurs investissements verts n'ont représenté en moyenne que 5% de leurs investissements dans les énergies fossiles.
Voilà, plus d'investissements dans le solaire que dans le pétrole cette année au niveau mondial. Chiffre de l'Agence internationale de l'énergie tombé aujourd'hui. Raphaël Couder avec nous sur BFM Business. Côté entreprise, Chanel, toujours tout plus haut, toujours plus fort. Les ventes mondiales du groupe ont atteint l'an dernier 17,2 milliards de dollars. C'est un record. C'est encore un moment où, vous savez, au début de semaine, une note d'analyste a préconisé d'être un petit peu plus calme désormais sur le secteur du luxe. Et quand on fouille un petit peu les résultats et chiffres de Chanel, on se rend compte de quoi ? Bah que le groupe, c'est vrai, s'attend à une baisse des ventes cette année du côté des États-Unis. Hélène Cornet.
Depuis novembre dernier, Chanel constate un léger ralentissement des ventes aux États-Unis avec une croissance limitée à un chiffre. Le marché du luxe américain semble bel et bien plongé dans une sorte d'atonie persistante. L'inflation pèse dans les résultats et ses performances modérées devraient persister toute cette année. Burberry a déjà annoncé une baisse de 7% de ses ventes aux États-Unis au quatrième trimestre. Kering a fait état d'un environnement plus difficile. La fin d'un fort dynamisme observé après la pandémie. Le marché chinois devrait compenser cette faiblesse temporaire, avance Chanel, et cela n'empêche pas la maison de luxe d'investir dans l'ouverture de nouvelles boutiques aux États-Unis. Des propos rassurants qui ne suffisent pas à calmer les inquiétudes des investisseurs. Ils estiment que certains groupes sont peut-être survalorisés. Ils pourraient être désormais plus sélectifs et choisir des titres moins exposés au marché américain. Un marché qui représente près d'un tiers des ventes chez LVMH et Kering, 18% pour Hermès.
Voilà, Chanel, nouvelle année record, mais un petit mais quand même sur l'Amérique du Nord pour 2023. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 19h08, on retourne sur les marchés. Les marchés, je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui a terminé en légère baisse, moins 0,33% pour l'indice parisien, 7200 29 points. Bonsoir Sabrina. Sabrina Cagliozzi avec nous depuis New York. Alors on a beaucoup de choses à voir avec vous Sabrina. D'abord, l'attraction du jour, c'est Nvidia, le géant des processeurs qui est en train de s'envoler. Très belle prévision hier soir et une capi qui est pas loin de passer le cap des 1000 milliards de dollars. C'est ça Sabrina hein?
Ah, on y est presque, oui, on y est presque. Un club très fermé. On y retrouve Apple, Microsoft, Alphabet ou encore Amazon. Et pour Nvidia, c'est pour bientôt. En tout cas, on s'y rapproche puisqu'on est actuellement à 960 milliards de dollars de capitalisation boursière. On était à 755 milliards hier à la clôture. Un bond pour le groupe de 27% en bourse dans le sillage, oui, de la publication de ses résultats trimestriels. Les chiffres supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé. Surtout, une demande qui va rester forte et croissante pour tous ses produits. Le groupe a profité, bien sûr, de la demande pour ses puces GPU et de la part des fournisseurs de cloud et des sociétés qui utilisent ces produits pour fournir et déployer les apps d'IA générative, l'intelligence artificielle. Le groupe clairement surfe sur cette vague et ça marche, puisque donc les prévisions pour son deuxième trimestre sont nettement au-dessus des attentes. Le groupe table sur un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars. C'est un record, ce serait un record, et nettement au-dessus des attentes. Donc le titre en belle hausse, ça porte les valeurs du secteur, ça porte tout particulièrement l'indice Nasdaq qui grimpe d'1,6% actuellement, 12 680 points. Le S&P 500 en hausse de 0,7%. En revanche, du côté du Dow Jones, on fait un peu la grimace là. Moins 0,5%. Cinquième séance consécutive de baisse pour l'indice Dow Jones, qui arrive pas à se remettre du dossier de la dette, bien sûr, avec des progrès de ce côté-là. Mais toujours pas d'accord. L'agence de notation Fitch a annoncé hier soir qu'elle avait placé la note AAA des États-Unis sous surveillance négative. Ça pèse sur cet indice qui est en baisse donc, et qui est à la traîne avec à comparer avec l'indice Nasdaq qui, lui, est en belle hausse, plus 1,6% grâce donc à Nvidia.
Merci beaucoup Sabrina. Bon, on va suivre ça évidemment, voir si dans les prochaines heures, les prochains jours, Nvidia entre dans ce club très fermé des 4 plus grosses capis de plus de 1000 milliards qui deviendront qu'un club des 5 en l'occurrence. On suivra ça évidemment sur BFM Business. Merci beaucoup Sabrina, 19h11. Nous, on marque une pause dans un instant. Alors, le patron de l'autorité de sûreté nucléaire qui a parlé aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la sécurité du parc nucléaire, il parle une fois tous les deux ans, donc c'est rare. On va en parler un petit peu avec Mathieu Pechberti. Et puis, le fondateur du salon Change Now qui se tient à partir de demain et pendant 3 jours au Grand Palais éphémère pour brainstormer sur un monde qui ne fait pas peur. C'est un sacré teaser en l'occurrence. Son fondateur, Santiago Lefebvre, sera avec nous pour en parler dans un instant. À tout de suite.
Good evening business, ils font l'écho.
Allez, 19h13 sur BFM Business. Je vous le disais, c'est une audition qu'on attend toujours avec un peu d'impatience. Le patron de l'autorité de sûreté nucléaire qui s'est exprimé aujourd'hui devant une mission parlementaire à l'Assemblée. Ça arrive que 2 fois par an. Alors quand même, on s'est dit, on va essayer de voir ce qui leur sort. C'est intéressant. Mathieu Pechberti est avec nous pour en parler. Bonsoir Mathieu. Merci d'être avec nous. Alors, il y a quelques messages quand même dans ce que nous a dit Bernard Derozuc, notamment sur la sécheresse. Il dit là, on a un sujet pour l'activité nucléaire quand même, Mathieu. C'est quoi l'histoire ?
Oui, en réalité, les événements, on va dire, imprévus qui se sont passés depuis en gros un an. Et il y a eu évidemment la sécheresse de l'été dernier qu'on va vraisemblablement revivre l'été prochain. Et pour se rappeler un petit peu ce qui s'est passé l'été dernier, c'est que il y a une réglementation très stricte, une réglementation environnementale très stricte en France, qui empêche les centrales nucléaires de tourner en cas de grosse chaleur, parce que les centrales nucléaires rejettent dans l'eau des fleuves de l'eau déjà chaude, puisqu'elle sert à refroidir les réacteurs, et donc ça fait monter la température des fleuves et ça détruit la faune et la flore. Donc une réglementation très stricte, et ça, l'autorité de sûreté nucléaire a fait plusieurs dérogations, enfin en tout cas a fait une dérogation pour plusieurs réacteurs l'été dernier, pour permettre que 5 réacteurs nucléaires continuent de tourner. Alors il n'y a pas eu de conséquences, mais le président de l'autorité de sûreté nucléaire a insisté sur ce point en disant qu'il fallait anticiper cela pour respecter les procédures et pour éviter qu'il y ait des impacts sur la sûreté nucléaire. Dit autrement, l'ensemble du message, c'est pas seulement sur à combien de degrés doivent être les fleuves, mais l'ensemble du message, c'est de dire la sécheresse, là maintenant, on est rentré dans une période avec le dérèglement climatique, on va en avoir tous les étés, et ça va durer, et ça va vraisemblablement être de pire en pire. Donc, ce qu'on n'a pas pu anticiper l'année dernière, et ce qu'on va pas non plus anticiper pour cet été, il faut faire en sorte que dans 5 ans...
Mais c'est ça.
Les choses changent, et donc ils demandent à l'exploitant, donc à EDF, de faire en sorte d'avoir des retenues d'eau supplémentaires, d'avoir, en tout cas, de faire face à ses besoins en eau, pour refroidir les réacteurs, parce que c'est essentiel. C'est il faut de l'eau pour faire de l'électricité.
Mais voilà, c'est ça. Mais
Et voilà, c'est vraiment ce message très important. On voit des photos, c'est récemment la Loire qui était à un niveau très très bas l'été dernier. Ça va recommencer l'été prochain. Et donc, si vous n'avez pas d'eau sur les fleuves, vous n'avez pas de centrale qui tourne, il n'y a pas d'électricité. Mais donc évitez, des pénuries d'électricité en été.
C'est ça. Mais au-delà de 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans, c'est effectivement la question des futurs EPR qui est posée. Et ça aussi, il en a dit un mot ce matin. Il dit à EDF, vous savez, les EPR 2 que vous êtes en train de concevoir, que vous allez concevoir pour les prochaines années,
il risque finalement d'être assez vite dépassé par les événements aussi. C'est ça l'idée, Mathieu Fontaine.
Oui, et encore une fois, si on reprend cet exemple de la sécheresse ou même des arrêts de réacteurs qu'il y a eu à l'automne dernier, c'est toujours, son message est toujours le même, c'est essayer d'avoir une vision de long terme. Alors, on a un petit peu de mal en France, surtout avec l'industrie, mais c'est effectivement de dire, bon, on va construire des EPR, alors, numéro 2, deuxième version. Le concept ou le design, comme on dit, des réacteurs est déjà prêt. Mais le problème, c'est que ces réacteurs, ils vont marcher au moins 60 ans. Et encore, EDF commence à dire, mais en fait, on peut les mettre 80 ans. Donc en fait, en 2100, les EPR qu'on a décidé aujourd'hui, ils tourneront toujours encore. Alors, où en sera le climat en 2100, on n'en sait rien.
C'est-à-dire que le logiciel d'EDF n'est pas à jour par rapport
Cela dit, on ne sait pas ce qu'il en sera en 2100. Sujet, c'est de dire, vous voyez très bien que l'urgence climatique fait que les températures, on voit à peu près ce qu'elles seront en 2040, 2050, et donc il faut y penser maintenant, parce qu'on est en train de lancer des centrales nucléaires là, qui seront en route en 2030, 2040, qui fonctionneront toujours à la fin du siècle. Donc tout ça, en fait, il dit, il faut y réfléchir. On n'aura pas les réponses tout de suite, mais il faut lancer ce mouvement parce que les filières nucléaires est un peu, en tout cas, à courir derrière le camion là depuis un an en essayant de dire, il faut construire des réacteurs. Sauf qu'on n'a pas d'EPR qui marche et puis il faut les construire alors qu'on n'a toujours pas de main d'œuvre.
D'un mot, Mathieu, il dit sur la santé du parc actuel qui suscite toujours beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Il dit, il faut une sécurisation du parc sur 15-20 ans. Il n'y a toujours pas de message d'alerte sur la santé globale du parc nucléaire finalement. Ou alors on attend de voir quoi.
Ce qu'il dit, c'est que ce qui s'est passé à l'automne dernier, ce qu'on appelle les arrêts génériques, les maladies contagieuses sur tout le parc nucléaire, on risque d'en avoir encore. Et c'est toujours le même problème. Donc il dit, on voit bien que ces arrêts de réacteurs, on n'est quand même pas passé loin de la grosse catastrophe. Ouais. Et que pour éviter cela, il faut qu'effectivement EDF ait, on va dire, une stratégie industrielle pour éviter ce genre de problème ou pour savoir les gérer. Parce que si on ne les évite pas, il faut savoir les gérer. Et il faut être capable de se projeter, encore une fois, à beaucoup plus long terme. Ce qui s'est passé l'année dernière, tout a été fait en catastrophe. Et ça a globalement, a posteriori, plutôt été bien géré par EDF. Mais très franchement, à chaque fois, on a l'impression qu'on danse sur un volcan. Donc voilà, lui, sa mission, c'est de dire, pour la sûreté du parc nucléaire, il faut anticiper les arrêts, il faut anticiper les problèmes industriels, il faut anticiper la sécheresse, il faut anticiper les problèmes climatiques. Et donc ça fait beaucoup de choses. Et quand on voit qu'on a eu du mal à anticiper la politique énergétique depuis 10 ans, voilà.
Mais il le dit de manière très cash toujours, Bernard de Rozeuc, le patron de la SN. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. 19h18, c'est Santiago Lefebvre qui est avec nous, cofondateur du sommet Change Now. Bonsoir Santiago Lefebvre, merci beaucoup d'être avec nous. Alors je disais, ça commence demain. Non, pardon, ça commence aujourd'hui.
Ça commence
aujourd'hui au Grand Palais Éphémère. 3-4 jours de débat pour débattre de l'avenir de la planète. Vous dites, pour brainstormer sur un futur qui ne fait pas peur. Je trouvais le teaser très intéressant, finalement. C'est quoi l'idée, fondamentalement ?
Alors, c'est plus que brainstormer. Mais c'est agir. Ouais. Agir pour montrer, en fait, une vision d'un avenir qui ne fait pas peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face aux enjeux qu'on a, en soi, on a raison d'avoir peur. C'est-à-dire que quand on voit que les scénarios nous poussent à nous préparer à plus 4 degrés,
ouais,
c'est vraiment un changement radical de comment on voit la société aujourd'hui. Donc, forcément, ça peut faire peur. Et en même temps, aujourd'hui, déjà, ce scénario-là n'est pas écrit. On peut encore agir. Et il y a des personnes qui agissent partout, en France, à l'international, qui développent des solutions, que ce soit pour le climat, pour la biodiversité, pour les ressources, pour ne pas consommer 2 planètes par an, qui font des choses aussi plus pour l'éducation, pour l'humain. Et en fait, on se rend compte qu'il existe un peu partout des solutions qui permettent finalement de croire dans un avenir auquel on peut adhérer, en fait. Et c'est ça, Change Now aussi.
C'est ça, c'est 3-4 jours d'échange, donc c'est ça. Il y a des décideurs, des investisseurs, des entrepreneurs, des politiques. Franchement, il y en a beaucoup, des politiques ou pas là pendant.
Il y en a. Et à tous les niveaux,
Vous avez des maires, des élus locaux qui viennent là.
On a reçu, par exemple, aujourd'hui les ministres Christophe Béchu et Jean-Noël Barrot. Et puis on a aussi des maires. On a une trentaine de maires qui viennent demain parce qu'on a un programme des maires. C'est-à-dire que l'enjeu de la ville est super important. Ça représente à peu près 70 à 80% des impacts que l'on a.
Ouais.
Et donc c'est très important d'embarquer les maires dans cette transition.
Ouais.
Donc on a des maires qui viennent pour le coup d'un peu partout du monde, de Dublin, de Kingston en Jamaïque.
Ouais. Quelques 120 pays, je crois, représentés, c'est ça
Oui, dans l'ensemble de l'audience, c'est à peu près 120 pays.
Avec des conférences, évidemment. J'ai vu qu'il y avait une journée porte ouverte. Samedi. Alors ça s'adresse à qui, une journée porte ouverte? Je me suis dit, c'est le lieu où tout le monde se rencontre, c'est the place to be, investisseurs, entrepreneurs. Mais journée porte ouverte, ça s'adresse
alors,
à qui
cette... Oui, c'est plutôt une journée grand public, c'est-à-dire qu'en fait... On a une consonance de l'événement qui est très business à l'origine. Les jeudis, vendredis, on parle vraiment de comment est-ce qu'on peut accélérer les solutions, comment est-ce qu'on crée des collaborations, des partenariats. Donc comment est-ce qu'on fait avancer ces solutions-là? Ça continue le samedi, parce que y a toujours des personnes qui font avancer le business le samedi lors de l'événement. Mais en plus de ça, il y a tout un programme pour le grand public, pour la jeunesse. Donc on a à la fois des choses pour les enfants de 3 à 17 ans, oui, puis des choses pour les jeunes adultes. Voilà, c'est des programmes vraiment segmentés. Mmh. On a généralement tout notre contenu est en anglais, sauf le samedi où, ouais, il y a à peu près la moitié du contenu qui est fait en français, ouais, justement pour pouvoir démocratiser davantage.
Est-ce que c'est l'occasion d'expliquer aux politiques justement qu'il faut s'appuyer plus encore sur les entreprises demain pour relever les grands défis? On parlait de changement climatique tout à l'heure avec Dominique Carlac du MEDEF. Quand vous voyez que du côté du gouvernement, on semble vouloir prendre en main et accaparer la gestion de l'accélération de la décarbonation de l'économie française, vous n'avez pas envie de dire non, regardez ce qui se fait sur le terrain, regardez comment on innove, laissez les entreprises prendre la part du job finalement.
Alors ChangeNow, c'est vraiment une plateforme où on essaie de créer le dialogue. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la division, de la polarisation, il n'y a pas de dialogue, oui, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de progrès, quelque part. Donc ChangeNow, c'est un peu un lieu qu'on arrive à rendre assez neutre, dans lequel on arrive justement à avoir toutes ces parties prenantes. La personne qui transforme l'entreprise, la grande entreprise de l'intérieur, aussi l'entrepreneur, le politique, oui, l'activiste, et pour montrer qu'en fait, on est tous en train de poursuivre un même but avec des approches complètement différentes, mais qu'il faut quand même en parler, quelque part.
Oui.
Et donc c'est ça qu'apporte aussi ChangeNow.
Il y aura des débats, j'ai vu, il y aura des orateurs assez célèbres là. J'ai vu François Gabart, Mathieu Ricard seront là. Enfin, c'est des profils très, oui, atypiques. Ils viennent parler de quoi tous aujourd'hui?
Alors Mathieu Ricard, c'est très, ouais, simple. C'est-à-dire que au-delà des solutions et des innovations, il y a quand même un vrai regard à porter sur les valeurs avec lesquelles on fait société. Et si on ne change pas ces valeurs-là, dans tous les cas, les innovations, elles seront elles ne marcheront qu'à court terme. On reviendra sur des biais que l'on a aujourd'hui, de toujours voilà plus de ressources, plus de tout, etc.
Oui.
Mathieu Ricard vient avec des mots, par exemple,
un peu inattendu de voir Mathieu Ricard chez vous pendant...
Oui, mais il apporte des mots de sagesse. Et la sagesse est très importante, de compassion, d'altruisme. Ça fait, oui, partie des valeurs qui doivent se développer davantage. Oui. Si on veut changer un petit peu notre lien par rapport à la nature, déjà au monde qui nous entoure, moins consommer de ressources. Comme je disais, aujourd'hui, on consomme 2 planètes par an, 2,9, oui, planètes par an pour la France.
2,9 planètes par an pour la, oui, France.
On a dépassé le 5 mai l'ensemble des ressources que la nature nous procure.
Oui.
Donc voilà, par exemple, il vient parler de ça, mais après on a François Gabart qui lui développe, ouais, un projet de cargo à voile, donc toute une ligne de fret maritime décarbonée. Mmh. Et après on a plein d'innovateurs aussi. Mmh. On parlait du problème de l'eau juste,
oui,
avant.
Oui, oui.
En fait, il y a une empreinte, quel que soit l'objet que l'on a, que l'on utilise, il y a une empreinte en eau. Ça a nécessité de l'eau pour le faire.
Oui.
Par exemple, un vêtement, dès qu'on, ouais, le teint, la teinture est une catastrophe d'un point de vue pollution de l'eau. Donc, on, ouais, utilise beaucoup de litres d'eau pour ça. Donc, nous, on a par exemple une solution française qui s'appelle Everdye,
ouais,
qui permet de teinter les vêtements avec 98% d'eau en moins.
Ça alors?
Et donc voilà, ça, pareil, lorsqu'on a des vrais stress hydriques, ouais, eh ben, ça vient déjà aider. Et puis, on a plein, et en fait, si on les met toutes bout à bout, on arrive à trouver déjà une solution à une partie,
ouais,
de l'équation eau. Et après, il faut juste que vraiment, il y ait le soutien massif des pouvoirs publics, des consommateurs,
évidemment,
etc.
Évidemment. Et c'est toutes ces innovations, toutes ces réflexions qu'on va découvrir chez vous encore pendant 3 jours du côté du sommet ChangeNow. Grand palais éphémère, hein, donc.
Grand palais éphémère.
À Paris. Santiago Lefebvre, entrepreneur, cofondateur du sommet ChangeNow. Merci beaucoup d'être passé
Merci
nous
beaucoup.
Voir ce soir sur
Merci
BFM Business. C'est très bon événement à vous, bien évidemment. 19h25, Edwige Chevrillon vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume. Bonsoir monsieur.
Votre invité, est-il encore besoin de le présenter?
Oui, bah oui, mais c'est lui qui veut. C'est un start-upper. On le connaît
sûr.
Pas comme ça. Bon, il est accessoire. Président du conseil de surveillance de Publicis, vous avez raison, c'est Maurice Lévy, bien sûr. Lui, eh ben, il veut changer le monde de l'art. Il lance UArt. Il a lancé ça il y a une grosse semaine. Oui. Il y a aussi Vivatech avec la tech, c'est aussi son bébé, l'escalator. Et puis on dira quand même un mot sur le marché publicitaire.
Évidemment.
Ça va bien.
Ça va de soi. Voilà, Maurice Lévy, invité d'Edwige Chevrillon dans un instant, la grande interview, 19h30, 20h. Et nous, on se retrouve demain, 18h, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business. À demain.
Bonsoir. Bruxelles dit oui à la fusion UBS à Crédit Suisse. C'est un accord sans condition. La Commission estime que l'opération ne contrevient pas aux règles de la concurrence à l'intérieur de la zone euro. De Francfort, le vice-président de la BCE presse les États à mettre fin aux aides à l'énergie. La crise s'atténue, explique Louise de Guindos. Les gouvernements doivent supprimer les mesures de soutien afin d'éviter d'accroître les pressions inflationnistes à moyen terme. Et le gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas qui déclare à plusieurs médias médias que les deux hausses de taux de juin et juillet sont intégrées aux anticipations d'inflation. Après Score, plus tôt dans la journée, autour d'AXA et d'Allianz, de quitter l'Alliance des assureurs pour le climat, des entreprises qui choisissent de poursuivre leurs objectifs zéro carbone de manière individuelle. C'était d'ailleurs AXA qui avait poussé à la création de cette organisation il y a maintenant 18 mois. Dans l'aérien, accord scellé entre Lufthansa et l'État italien concernant la prise de participation dans la compagnie ITA qui avait été nationalisée. L'allemand entre au capital pour 41%, se réservant le droit de monter davantage au capital dans un second temps. Le montant de cette transaction est estimé entre 300 et 320 millions d'euros. Chanel a publié ses résultats annuels, une hausse de chiffre d'affaires de 17% en données comparables à 17 milliards de dollars pour un bénéfice net à 4,6 milliards. Comme d'autres marques, Chanel observe un ralentissement des ventes aux États-Unis, l'un de ses principaux marchés, mais la progression des ventes en Chine sera suffisante pour compenser la faiblesse américaine, estime le directeur financier de Chanel. Et une année bien meilleure que prévue chez Ralph Lauren, 6,5 milliards de dollars de ventes pour un bénéfice de 522 millions. C'est une hausse de 10% en devises constantes tirée par l'Europe et par l'Asie. Pour l'exercice 2024, Ralph Lauren s'attend à une croissance à un chiffre. Et on fait un point sur les marchés. Le CAC 40 qui enchaîne une quatrième séance de baisse d'affilée en perdant 0,3% à 7229 points. Tout de suite, dans la grande interview, Edwige Chevrillon reçoit Maurice Lévy, le président du conseil de surveillance de Publicis.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois quelqu'un que vous connaissez bien, mais qui se définit quasiment aujourd'hui comme un start-upper. Bonsoir Maurice Lévy.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous, président du conseil de surveillance du Publicis. On en dira forcément un mot, je crois que votre assemblée générale est le 31 mai, mais surtout, est-ce que le marché de la publicité se tient? Est-ce qu'il a retrouvé ses niveaux d'avant-crise? Et puis, on va parler de Vivatech. Vivatech le 14 juin, ça c'est votre un de vos nombreux bébés, si j'ose dire, c'est vous qui l'avez créé, lancé et défendu. Et puis là, vous avez lancé, c'était le 15 mai dernier, YoArt, qui se veut un peu le réseau social de l'art. Vous êtes un collectionneur, tout le monde le sait. Et là, vous avez... Ou le YouTube, j'ai vu plusieurs appellations, mais en tous les cas, c'est une sorte de super galerie virtuelle où tout le monde, tous les artistes peuvent s'inscrire. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans alors qu'il y a déjà beaucoup de l'équivalent du YoArt qui ont débuté maintenant, il y a quand même quelques années?
Alors ça a commencé il y a très longtemps, puisque j'ai été tombé sur une étude qui montrait qu'il y avait plus de 200 millions d'artistes amateurs, des gens qui, de manière régulière, peignaient, dessinaient, faisaient quelque chose. Et qu'il y avait une frustration considérable chez tous ces artistes amateurs qui étaient incapables de montrer leurs œuvres. Donc ça m'avait donné l'idée de créer la plus grande galerie du monde, et ça remontait à la fameuse crise de 2008 à 2012. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur cette étude. Et puis je n'ai pas eu le temps de le faire tout de suite, j'ai un peu traîné, et dès que mes fonctions ont évolué, j'ai commencé à y travailler. Depuis 2019, j'y travaille avec d'ailleurs un de mes enfants, et puis...
Stéphane
Oui, Stéphane, absolument. Et une petite équipe autour, et on a grandi autour de ce projet, surtout pendant la pandémie, et nous avons effectivement constaté qu'il y avait beaucoup de plateformes qui existaient déjà.
Il y en a 62, je crois.
Exactement. Il y a 62 plateformes, mais il n'y en a pas une seule qui correspond aux besoins des gens. Il correspond à une partie des besoins, il y en a beaucoup qui correspondent à une petite tranche des besoins, il n'y en a aucune qui regroupe aussi bien les artistes professionnels que les artistes amateurs, les artistes que les galeristes, les collectionneurs que tout simplement ce qu'on appelle les art lovers, c'est-à-dire les amoureux de l'art. Et j'ai pensé que ce serait bien de répondre à l'ensemble des besoins et puis surtout de faire quelque chose d'actuel en y mettant de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, on y a pensé depuis le tout début. On voulait non seulement qu'il y ait les œuvres, mais qu'il y ait le moyen de suivre une œuvre. Par exemple, vous aimez une œuvre que vous voyez sur YoArt et vous trouvez que c'est un truc un peu curieux, abstrait, eh bien on va vous dire d'où ça vient, quel est le courant, comment cette œuvre se relie à l'histoire de l'art, et vous allez ainsi découvrir pas mal de choses autour de l'artiste, à quel courant de pensée ou d'art il appartient, et puis ensuite, comment est-ce que cette œuvre s'inscrit. On peut aller même plus loin, on peut faire des liens directement, par la suite d'ailleurs on le fera, avec Wikipédia, Wikipédia Art, qui permettra à ce moment-là de découvrir pas mal de choses. C'est donc quelque chose qui se veut intelligent, qui rend des services, les gens vont pouvoir vendre, vont pouvoir acheter, mais vont pouvoir aussi, Edwige, vous aimez l'art, vous avez été dans pas mal de musées, et vous êtes inspiré par Malraux, et vous avez envie de votre musée imaginaire. Eh bien, sur yourart.art, vous allez pouvoir créer votre propre musée imaginaire. Vous allez prendre les œuvres que vous aimez, et vous allez pouvoir les mettre sur le musée imaginaire qui vous appartient. Et il va y avoir énormément de solutions. En plus, ce que nous avons voulu faire, c'est que non seulement les artistes vont pouvoir avoir leur propre galerie, que nous avons appelée Métagalerie, et vous allez voir pourquoi, mais nous voulons que demain, toute la dimension métaverse soit accessible à tout le monde. C'est ainsi que tout est déjà écrit pour pouvoir être sur le métaverse. Nous ne l'avons pas fait tout de suite pour une raison très simple, c'est qu'il y a peu de fréquentation sur le métaverse.
Oui, parce que pour l'instant, le métaverse, on a eu l'impression que ça allait transformer le monde. Finalement, pour l'instant, ça, on ne peut pas dire que ça s'est resté à l'état embryonnaire.
Ça, c'est sûr qu'au niveau des utilisateurs, on en est très loin.
Oui, et pour ça n'a pas séduit. Très simple, ça n'a pas séduit.
Mais une raison très simple, il faut porter un masque, c'est quand même quelque chose de lourd, c'est quelque chose de cher, et il faut développer des choses qui sont assez sophistiquées et compliquées. Et la raison pour laquelle d'ailleurs ChatGPT, l'outil d'intelligence artificielle, fonctionne à une vitesse impressionnante et qu'il y a un véritable.
Mais ça veut dire quoi? C'est par exemple, Yara, j'ai envie de dire, là, vous faites un mixte, vous avez mélangé vos deux casquettes de Vivatech et de UART. Ça veut dire que par exemple, si on prend, je sais pas, moi, Rodin, je regarde une sculpture, derrière, ChatGPT aura écrit des tas de choses?
Absolument.
D'accord.
Absolument. Et non
Donc
seulement
vous revendiquez
cela,
l'utilisation mais demain, de ChatGPT.
Demain, parce qu'on est en train d'y travailler, on a sorti la première version, on en est déjà à la version 1.1. Demain, il va y avoir la possibilité de mettre en majesté des sculptures en trois dimensions. Et ça, c'est très compliqué à faire. Parce que on n'a pas du tout envie que ça ait l'air d'être une photo à plat. On veut qu'il y ait vraiment le relief, qu'il y ait absolument tout. Donc tous ceux qui
Donc
font
en fait,
des œuvres en trois dimensions,
si je comprends bien ce que vous dites, c'est la technologie, Maurice Lévy, qui doit vous différencier des autres galeries virtuelles.
C'est d'abord le service qui est très complet. Ce sont les innovations et c'est la technologie. Et la technologie fait une différence assez considérable par rapport à ce qui existe. Mais parmi les innovations, il y en a une qui est toute simple. Nous allons avoir ce qu'on appelle un NFT, c'est-à-dire un instrument digitalisé qui est virtuel, qui va être attaché à une œuvre et l'auteur de cette œuvre aura un droit perpétuel. Exactement comme chaque fois qu'une chanson...
Donc vous allez vendre des NFT, quoi?
Non, allons attacher... Bien sûr, on va vendre des NFT, mais on va attacher à toute œuvre physique la possibilité pour l'auteur de cette œuvre de recevoir un droit, une royauté, comme on dit dans le jargon juridique, un droit à chaque transaction. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple idiot, je suis un pauvre artiste, mon œuvre se vend 1000 euros, et je suis déjà très content qu'elle ait pu être vendue. À la suite d'un mouvement de folie, ce trait complètement ridicule vaut demain 300 000 euros, il est vendu en enchère, je vais toucher un droit. là-dessus. Je vais toucher 3%, 4%, ce qui n'existe pas aujourd'hui.
Et est-ce que vous allez créer des NFT pour les artistes? Parce qu'il y a des artistes qui ne sont pas capables de créer des NFT. Je veux dire, c'est un savoir-faire. Lorsqu'on écoute les patrons de Sorare, on voit bien que c'est un savoir-faire.
Nous n'allons pas nous substituer à l'artiste, mais nous allons leur donner des moyens pour davantage s'exprimer. D'ores et déjà, ce que nous créons est assez spectaculaire. Et quand vous vous promenez sur la plateforme, c'est une différence colossale avec tout ce qui existe. Mais nous allons encore l'enrichir. Nous allons y mettre aussi du contenu et donc du rédactionnel où on va mettre en avant. Et puis, il y aura pas mal d'autres éléments comme des réseaux sociaux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la possibilité pour les artistes de travailler entre eux, de discuter entre eux, et voire même d'être inspirés ou d'avoir un mentorat ou une masterclass.
Alors la question maintenant, vous avez ici, on est BFM Business, vous connaissez bien, et puis c'est pas à vous que...
Non, c'est pas vrai. Les
chiffres vont pas vous faire peur, Maurice Lévy. Comment est-ce que vous pouvez atteindre une rentabilité alors que vous avez des taux de commission que vous voulez volontairement assez bas, non?
Ils sont très bas,
entre
les plus bas
5 et 10%. Voilà, les plus bas du marché. 5 oui. à 10%.
5% pour les galeries, de manière à ce que les galeries ne soient pas découragées de venir. Ouais. Et puis 10% pour les artistes qui ne sont pas qui vont dans direct.
Ok. Maintenant, il faut atteindre une rentabilité. C'est ça le succès
de YouAre,
c'est que ça soit pérenne.
Alors l'épine dorsale du modèle, c'est l'abonnement. Un abonnement pas très élevé, puisque même très bon marché, puisque c'est 10 euros par mois, pas dire que ce soit cher. Et pour un artiste professionnel, ça peut monter à 25 ou 30 euros.
Mais gratuit pour ceux qui viennent voir.
Et ceux qui viennent voir,
c'est gratuit.
C'est gratuit, et pour les acheteurs, c'est gratuit.
C'est ça, oui.
Donc, ce qui est coûteux, et ce qui coûte, c'est d'exposer. Et donc, ils ont accès à tout ce public en payant un abonnement assez faible. Et on gagnera de l'argent quand on aura la masse des artistes qui viendra nous rejoindre.
Et alors, c'est quoi la masse? Pour l'instant, je crois que les derniers chiffres qu'on m'a donnés, vous avez 900 artistes inscrits, mais enfin, ça a commencé le 15 mai, donc c'est tout récent.
Ça débute.
Oui.
C'est inouï. On n'aurait pas imaginé avoir 900 artistes aujourd'hui.
Et les galeries?
Et sur les galeries, on a une quarantaine de galeries, d'ores et déjà, alors qu'on en avait 9 le 15 mai. Ouais. Donc ça part très fort. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits, mais qui ne sont pas encore exposés, parce qu'ils n'ont pas complété leur inscription avec tous les éléments qu'il faut, notamment mettre le catalogue, donner toutes les informations sur chacune des œuvres. C'est un petit travail, c'est assez simple. C'est même très simple, puisqu'en un clic, ils peuvent mettre les informations qu'ils ont sur une galerie ou sur un musée imaginaire. Et c'est donc d'une grande simplicité, mais il faut réunir les informations. Et nous avons aussi un succès, pour l'instant, que je qualifierais d'estime, mais qui est comme assez impressionnant.
Donc, il en faut combien?
Parce que,
au total.
D'artistes?
Oui.
Si on veut avoir la galerie la plus grande du monde, ce seront des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers.
Le point mort.
Le point mort, on devrait l'atteindre en 2025-2026
avec
40 ou 50 000 artistes.
D'accord.
Bon. Alors, on en a déjà quasiment 1000. Je ne dis pas qu'en 40 semaines, on va avoir...
Parce qu'en plus, pour l'instant, c'est français plutôt.
Exactement. Voilà. Pas français plutôt, c'est français-français.
Français-français. Après, européen.
Après, ça va être européen.
Et puis, les marchés anglo-saxons, évidemment. Et asiatiques.
Oui. Mais on va commencer par l'Europe. On va attaquer l'Europe du Sud immédiatement parce que c'est ce qu'il y a de plus proche. Et puis, on va remonter. Ensuite, l'Angleterre. Et ensuite, les États-Unis avant d'attaquer le reste du monde. On est parti pour 10 ans de déploiement. Et ce n'est pas quelque chose qui va se passer en quelque temps. Mais le point mort, on l'obtiendra 2025-2026.
D'accord, ok. c'est enregistré, vous savez, on est en direct.
C'est enregistré, hein, j'espère bien, voilà, j'espère bien.
Attention.
Ça fait partie du business plan que j'ai proposé à ceux qui m'ont accompagné dans cette affaire.
Quand vous regardez les dépenses de marketing des autres grandes galeries virtuelles qui existent, similaires, c'est quand même des sommes très importantes en marketing pour se faire connaître, hein, parce que c'est pas au patron de Publicis qu'on va expliquer ce qu'il faut faire comme dépense. Si vous regardez Artsai, c'est centaines de millions de dollars levés. Singular, c'est 50 millions de dollars. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent.
J'en suis, en dehors de ce que j'ai mis à titre personnel, j'en suis à 9 millions pour le premier tour. Mmh. Et ce premier tour doit nous amener au milieu de l'année prochaine où on aura une nouvelle levée qui, elle, devra être beaucoup plus substantielle. Ce qu'il faut, c'est prouver que ça va marcher. Nous avons pour nous un certain nombre d'atouts. Le premier, le plus important, c'est la qualité de ce que nous offrons. Nous sommes extraordinairement exigeants. Nous avons fait ce qu'on appelle en bon français un benchmark, c'est-à-dire que nous avons examiné toutes les plateformes que vous avez évoquées et nous avons essayé de nous situer mieux ou différemment de manière à apporter un service très complet aux artistes. Pour nous, la première cible et la cible la plus chérie, c'est bien sûr les artistes. Nous voulons qu'ils se sentent très bien, qu'ils soient heureux, qu'ils considèrent que c'est leur plateforme, c'est leur outil, et qu'ils vont pouvoir être promus. Il y a déjà des ventes qui sont intervenues. C'est donc quelque chose qui est très attractif. Mais on en est au balbutiement, on est à 15 jours, même pas 15 jours démarrage, 10 jours.
Comme vous dites, ça fait, vous travaillez dessus sur ce projet depuis longtemps,
c'est ça.
Donc vous savez très bien où est-ce que vous voulez aller. Après.
Oui, et quant au budget de communication, je suis d'abord...
Marketing,
très,
oui.
Marketing, oui, communication et marketing, je suis très heureux que ça puisse être substantiel, puis ça va aider effectivement les médias, et donc...
Et Publicis, par exemple, aussi. Publicis
va aider. C'est Marcel qui est notre agence et qui nous aide. Et je pense que ça va aller très bien. Et qui a fait une très, très belle campagne avec Open Your Art. Ouais. C'est-à-dire, ouvrez votre art et ouvrez votre cœur.
Ouais. Très important. Ça fera le lien tout de suite, parce qu'avec l'autre chose, donc l'autre actualité dont il faut parler, évidemment, c'est Vivatech, 14-21 juin. 14-17 juin. Là, vous allez être concentré énormément sur tout ce qui est justement ChatGPT, intelligence artificielle. C'est ça le cœur de cette nouvelle édition de Vivatech.
Alors, comme toujours, quand il s'agit de Vivatech, il y a beaucoup de choses.
Oui.
Il y a beaucoup de choses. Et cette année, il y en aura encore plus.
2400 start-up, je crois.
Exactement. Il y a 2400 start-up qui exposent.
Oui.
Il y a plus de 10 000 qui viennent. Donc, c'est le lieu où les start-upers du monde entier se retrouvent. Ça, c'est clair. Les très grandes entreprises aussi. Il va y avoir un espace beaucoup plus grand. On a augmenté de plus de 20% la surface. Une partie de cette augmentation de surface va être consacrée au sport et au lien entre le sport et la technologie, notamment à l'orée des Jeux Olympiques, qui nous a paru intéressant de faire ce travail. Et puis, il va y avoir énormément d'innovations sur la mobilité, avec des choses très importantes qui vont être présentées, des robots, mais aussi sur la santé, dans beaucoup de domaines. Mais le cœur du débat, c'est l'intelligence artificielle. Et effectivement, avec tout ce qui a été créé par Sam Altman et OpenAI...
Oui, vous n'avez pas un déjeuner demain avec justement Sam Altman, il me semble avoir vu
vous
ça.
Vous êtes très bien informé, effectivement. Ouais. Nous avons une quinzaine de chefs d'entreprise et Sam Altman qui vient déjeuner à Publicis et on est très fiers de cela. Mais c'est aussi le fait que...
Il sera là, lui, à Vivatech ?
Il ne pourra pas venir à Vivatech, il sera en Corée à ce moment-là. Mmh. Il sera en Corée. Il n'est pas exclu qu'on puisse avoir une liaison directe. Je ne sais pas du tout si ce sera possible ou pas. Mais en tous les cas...
Qu'est-ce que vous allez lui dire demain? Tiens, Sam Altman, il y a du côté très positif.
Oui,
des côtés un peu négatifs. Enfin, négatif. Enfin, vous voyez bien.
Non, il y a des risques.
Il y a des risques.
Comme toujours.
Voilà. Il y a des risques, même pour l'humanité, disent certains.
Extraordinaire. Mmh. Et notamment pour tout ce qui touche à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour rendre les travaux pénibles moins pénibles, pour aider l'humain à réaliser un certain nombre de tâches difficiles et lourdes. Et il y a aussi tout ce qui aide dans le domaine de la santé, de la chirurgie, des solutions absolument brillantes, ou même la recherche médicale. Il y a des choses qui étaient impossibles à faire, ou l'espace,
mais le
sans
risque pour
les capacités
vous...
de technologiques qui existent aujourd'hui.
Et le risque, alors peut-être pas pour l'humanité, mais le risque quand même qu'apporte cette intelligence artificielle, qu'apporte ChatGPT, pour vous, c'est quoi, Maurice Lévy? Vous avez de l'expérience intéressante.
Il y a pas mal de risques. Il y en a un très important qui est non seulement ChatGPT, mais toute l'intelligence artificielle, tout ce que l'on peut faire avec les trucages, les fakes,
ouais,
et où on peut transformer une vérité. Et quand il s'agit de la diffusion de messages, quand on sait à quel point les médias se sont développés au travers d'Internet, et qu'il faut quand même se fier, pardon de le dire, mais aux vrais journalistes, et ça, j'ai toujours défendu cette thèse, parce que je crois que c'est extraordinairement important, ils vérifient l'information, et avec un outil comme ChatGPT, il pourrait y avoir de la communication incertaine, de la communication qui peut tromper. Mais il y a d'autres risques. Ouais. Il y a le risque aussi sur certains emplois qui peuvent disparaître.
Ouais. Ouais, ouais,
et là, il y aura d'autres emplois qui vont être créés, d'ores et déjà d'ailleurs.
Mais par exemple, est-ce que chez Publicis, vous utilisez déjà ChatGPT?
On teste ChatGPT sur un certain nombre de choses. Moi, je le teste depuis des mois, depuis le mois de novembre.
Oui, mais est-ce que vous l'utilisez? Je sais pas.
Mais je l'utilise.
Pour vos campagnes? Enfin, non, mais bien.
Non, pas encore pour les campagnes.
Encore. D'accord. Non, mais c'est intéressant de savoir.
On le teste, bien entendu, et on n'est pas les seuls. Mais il y a beaucoup de choses dérivées de l'intelligence artificielle qui sont mises en place. Par exemple, quand Arthur Sadoun a décidé la création de Marcel, la plateforme à destination de nos collaborateurs, immédiatement, il a songé qu'il fallait mettre de l'intelligence artificielle pour que, justement, on aide les gens. Certains ont réagi avec un peu de frilosité. Aujourd'hui, c'est un outil absolument indispensable et qui nous aide de manière considérable. Non seulement pour partager toute l'information avec tout le monde au sein du groupe, pour avoir une communication qui est extrêmement directe, mais aussi pour améliorer le mode de fonctionnement de la société. Donc c'est quelque chose de très précieux.
Un mot, parce que vous voyez, ça file vite, hein, mais il faut dire que pour une fois qu'on veut parler un peu de culture, ça fait du bien. Et de
avec un jeune
start-upper. Le marché de la pub, ça y est, la crise est effacée, on peut dire, en 2023, parce qu'on entend un peu tout et son contraire. 2022, ça a été très bien, etc. 2023, on dit, on redoutait finalement plutôt des bons chiffres. Comment est-ce que vous analysez ce marché de la publicité, premier trimestre, et là, les mois qui suivent?
Écoutez, quand on regarde les grands indicateurs macroéconomiques, on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes importants, que ce soit dans le domaine de l'inflation, les prix montent, et ça c'est quelque chose qui pèse sur le portefeuille du consommateur, ou que ce soit tout simplement sur les taux d'intérêt, etc. Donc on voit qu'il y a une pression qui est très importante. Par ailleurs, il y a une soif de la part des consommateurs de vivre pleinement après ces deux années et demie, trois années quasiment,
pouvoir d'achat, notamment.
De pandémie.
Ouais.
Donc ils ont cette espèce de conflit entre l'envie de profiter de la vie et par ailleurs, un portefeuille qui se rétrécit.
Donc, efface la crise quand même 2023?
On effacera la crise fin 2023, d'accord, début 2024. Mais en ce qui concerne notre groupe, les premiers chiffres qui ont été publiés par le président du directoire, Arthur Sadoun, il y a quelques semaines, montrent que nous nous portons plutôt de manière très encourageante et que, pour l'instant, nous surperformons nos concurrents.
Arthur Sindoun, dont on attend toujours la venue sur ce plateau. Que faites-vous, Maurice Lévy? Plus sérieusement...
On fait tout ce qu'on peut. Moi, vous voyez, je viens, vous m'appelez, j'accours.
AG, Assemblée Générale, 31 mai de oui. Publicis. Il y a toujours des interrogations un peu sur l'après Maurice Lévy, parce que pour l'instant, vous êtes le rempart. Quand même. Est-ce que on sait qu'il y a ici, on en parle beaucoup avec l'opération Lagardère. On parle beaucoup du groupe Vivendi. Vincent Bolloré, il a un petit trésor de guerre d'à peu près 10 milliards d'euros. Certains disent tiens, puisqu'il a Havas, il pourrait lorgner du côté. Il a déjà essayé, hein, vous le savez mieux que nous, de regarder du côté de Publicis. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous faire peur ou pas?
D'abord, je suis très content qu'il ait un trésor de guerre. C'est très bien. Bon. Et je l'en félicite parce que il a fait un parcours tout à fait exceptionnel et je suis très heureux pour lui et pour sa famille.
Mais sauf s'il sert à mettre la main, entre autres, sur Publicis.
Vous savez, Publicis, aujourd'hui, pèse à peu près deux fois Vivendi.
Le groupe Lagarde, oui, mais enfin, le groupe Bolloré, des petites réserves.
Oui, mais je dis, si on prend Vivendi... Mais je pense que ce serait une grande erreur que d'imaginer qu'il y ait la possibilité de faire un grand groupe. Vous savez, quand vous avez deux grands groupes, et je suis très heureux pour la France, et ça existe depuis que Publicis existe, il y a Havas, qui était là depuis bien avant Publicis. Publicis s'est développé d'une manière beaucoup plus différente et il y a deux grands groupes français, je pense que c'est à l'honneur de la France.
Bah regardez, et que c'est l'intérêt de la France. On disait qu'il y avait deux grands groupes.
Mais moi je pense que c'était mieux quand il y avait deux grands groupes pour la France.
Ah ben voilà.
Je vous donne mon opinion personnelle.
Oui, bien sûr. Bah oui, c'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, mais je vous donne mon opinion personnelle.
D'accord. Et donc c'est beaucoup mieux s'il y a Publicis et Havas de l'autre côté.
Ah, on est bien d'accord. Et, ouais. et séparé par l'avenue des Champs-Élysées.
Et pour calmer les esprits, allons sur UART. Donc,
absolument. UART.art. Absolument. Et vous allez, venez nombreux, les collectionneurs, les amateurs d'art, ce qu'on appelle les amoureux, et les art lovers, les artistes, bien entendu. Et vous serez très bien accueillis sur UART.art.
Il y en a pour tout le monde, c'est ça qui est intéressant. Merci Maurice Lévy d'être venu nous voir, expliquer vos nouveaux projets. Il y avait encore Escalator et encore plein d'autres choses, mais enfin bon, on a juste une demi-heure pour parler de vos projets.
Mais invitez-moi un jour où vous avez 6 heures et on en parlera.
Merci beaucoup Maurice Lévy, en tous les cas on vous retrouve déjà à propos de Vivatech. Et puis sur UART tous les jours, comme vous l'avez dit. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment la réécouter sur le podcast avec le QR code qui s'affiche pour ceux qui nous regardent à la télévision, sinon sur le site de BFM Business en replay. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec notamment l'académicien Éric Orsenna, Sabine Roule-Bézu. On parlera de maire et de Passy, qui a des négos très importantes qui débutent à Paris pour une fois la semaine prochaine. Mais pour l'instant, comme tous les soirs, Tech & Co, François Sorel, bonne soirée.